Chapitre 20. Duret faillit s'évanouir pendant qu'ils déjeunaient de leur dernière ration. Sol et le consul le transportèrent à l'ombre du sphinx, en haut des larges marches. Le visage du prêtre était aussi blanc que ses cheveux. Il fit un pâle sourire à Sol lorsque celui-ci pressa le goulot de la gourde contre ses lèvres.
« Vous acceptez tous sans difficulté la réalité de ma résurrection. »
dit-il en s'essuyant du doigt le coin des lèvres. Le consul se pencha en arrière, s'adossant à la pierre du sphinx.
« J'ai vu les cruciformes sur Hoyt, les mêmes que ceux que vous portez en ce moment.
Et j'ai cru à son histoire, qui est votre histoire, » déclara Sol.
Il passa la gourde au consul tandis que le père Duret se frottait le front en disant
« J'ai écouté les disques sur le père Soc. Ces récits, y compris le mien, sont tout à fait incroyables.
Vous doutez de certains d'entre eux ?» lui demanda le consul.
« Non. Le plus incroyable, c'est de les mettre bout à bout et de leur trouver un fil commun. »
Sol serra Rachel contre lui et la berça doucement, la main derrière la tête du bébé.
« Vous voyez un autre fil que le Gritch ?»«
Certainement. »
répliqua Duret, dont les joues avaient repris quelques couleurs.
« Ce pèlerinage ne s'est pas fait par accident. Vous n'avez pas été choisi par hasard.
Différents éléments sont intervenus, » murmura le consul. « L'Assemblée consultative des IA, le Sénat de l'hégémonie, et même l'Église Gritchtek.
Je le sais, »
fit Duret en secouant la tête.
« Mais il y a une seule influence intelligente derrière tous ces choix, mes amis. »
Sol se pencha en avant.
« Vous voulez parler de Dieu ?»«
Cette hypothèse n'est pas à écarter, »
déclara Duret en souriant.
« Mais je pensais plutôt aux technocentres, ces intelligences artificielles qui se sont comportées d'une si étrange manière durant cette série d'événements. »
Le bébé émettait des gazouillements incessants. Sol trouva une sucette à lui donner et régla le père Soc à son poignet sur l'enregistrement de ses propres battements de cœur. L'enfant serra ses petits poings, puis se laissa aller, apaisé, contre l'épaule de son père.
« Le récit de Brown Lamia, »
reprit le père Duret,
« donne à penser que certains éléments du technocentre cherche à déstabiliser la situation en donnant à l'humanité une chance de survie sans renoncer, pour autant, à leur projet d'intelligence ultime. »
Le consul fit un geste vague en direction du ciel sans nuages.
Tout ce qui s'est passé récemment, notre pèlerinage et même cette guerre, a été provoqué par le technocentre pour les besoins de sa politique intérieure.
Et que savons-nous du technocentre ?
Demanda Duret à voix basse.
« Pas grand-chose, »
dit le consul en lançant un caillou sur la pierre sculptée qui se trouvait à gauche de l'escalier du sphinx.
« Tout compte fait, nous ne savons presque rien du centre. »
Duret, qui s'était redressé, s'épongea le visage avec un linge légèrement mouillé.
« Leurs objectifs ne sont pourtant pas très éloignés des nôtres, » dit-il.
« Vous les connaissez ?» demanda Sol Weintraub en berçant le bébé.
« Connaître Dieu, »
fit le prêtre,
« ou bien, faute de pouvoir le connaître, le créer. »
Il laissa errer son regard en direction du fond de la vallée. Les ombres de la barrière rocheuse du sud-ouest commençaient à se profiler. Elles allaient bientôt atteindre les tombeaux du temps.
« C'est une idée que j'ai un peu contribué à faire admettre au sein de mon Église, »
reprit-il.
« J'ai lu vos traités sur Saint-Éliard, »
murmura Sol.
« Vous y défendez brillamment le concept de la nécessité d'une évolution vers le point oméga et la divinité, sans tomber dans l'hérésie socinienne. »«
Dans quoi ?»
demanda le consul.
« Socin, »
expliqua le prêtre avec un sourire,
« était un hérétique italien du XVIe siècle de l'ère pré-égyrienne. » Sa doctrine, qui lui valut l'excommunication, était que Dieu est une créature limitée, capable d'apprendre et d'évoluer à mesure que le monde, l'univers, devient plus complexe.
Je suis tombé moi-même dans cette hérésie, Sol. Ce fut mon premier péché.
Et quels furent les autres ?
Demanda Sol sans relever la tête.
À part le péché d'orgueil, mon plus grand péché fut la falsification des résultats de 7 ans de fouilles sur Armagast. Je voulais établir un lien entre les bâtisseurs d'arches de cette planète et une forme de proto-christianisme. Ce lien n'existait pas. J'ai donc bidouillé les données. Le plus ironique dans tout cela, c'est que mon plus grand péché, aux yeux de l'Église tout au moins, est d'avoir violé les principes de la méthode scientifique. À son déclin, l'Église est prête à accepter toutes les hérésies théologiques, mais elle ne souffre pas que l'on plaisante avec les protocoles scientifiques.
Est-ce que la planète d'Armagast ressemblait à cela ? Demanda Sol avec un geste du bras qui englobait la vallée, les tombeaux du temps et le désert. Duré regarda quelques instants autour de lui, avec une lueur d'intérêt vite éteinte.
En ce qui concerne la poussière, la roche et l'impression de mort, je pense que oui,
répondit-il.
Mais l'endroit où nous sommes est infiniment plus menaçant. Il y a quelque chose ici qui n'a pas succombé à la mort en temps voulu.
Le consul se mit à rire.
« J'espère que nous continuerons d'appartenir à cette catégorie, » dit-il. « Je pense que je vais marcher jusqu'au col pour essayer une nouvelle fois d'établir la liaison avec mon vaisseau. »«
Je vous accompagne, » lui dit Sol.
« Moi aussi, »
déclara le père Duré en se mettant debout. Il ne chancela qu'un bref instant et refusa la main que lui tendait Weintraub pour l'aider. Le vaisseau ne répondait toujours pas. Sans lui, il ne pouvait y avoir aucune mégatransmission, ni avec les extros, ni avec le RETS, ni avec quoi que ce fût en dehors d'Hyperion. Tous les canaux normaux de communication étaient fermés.
« Est-il possible que votre vaisseau ait été détruit ?»
demanda Sol.
« Non. Le message est reçu normalement. C'est la réponse qui est bloquée. Gladstone a mis le vaisseau en quarantaine. »
Sol plissa les yeux en direction des montagnes qui miroitaient dans les lointains sous les effets de la brume de chaleur. Plus près, les ruines de la cité des poètes se découpaient sur la ligne d'horizon.
« Ce n'est pas plus mal, » affirma l'érudit.
« Nous avons déjà un Deus ex machina de trop ici, semble-t-il. »
Paul Duré se mit à rire, d'un rire grave et de bon cœur. Il ne cessa que lorsqu'il commença à tousser pour prendre une gorgée d'eau.
« Qu'y a-t-il de si comique ?»
lui demanda le consul.
« Le Deus ex machina.
Ce dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que c'est exactement la raison qui explique la présence ici de chacun de nous.
Le pauvre Lénard avec son cruciforme.
Brown Lamia avec son poète ressuscité enfermé dans une boucle de Schrön et qui vient chercher la machine capable de libérer son dieu.
Vous aussi, Sol. »
qui attendait d'un dieu ténébreux la solution au terrible problème de votre enfant.
Sans oublier le technocentre issu de la machine, qui cherche à créer sa propre divinité.
Le consul ajusta sur son nez ses lunettes de soleil.
« Et vous ? »
demanda-t-il. Le père Duré secoua la tête.
« Moi ? J'attends que la plus grosse machine de toutes, l'univers, produise enfin son Dieu. Si j'ai tant encensé saint Éliard, n'est-ce pas tout simplement parce que je n'ai trouvé aucun signe d'un créateur vivant dans le monde qui nous entoure ? Comme les intelligences du technocentre, je cherche à fabriquer ce que je n'ai pas réussi à trouver autre part.
Et les extros ?
Demanda Sol en regardant le ciel.
Que pensez-vous qu'ils cherchent ?
Ce fut le consul qui lui répondit.
Ils sont obsédés par Hyperion. Ils ont la conviction qu'un nouvel espoir pour l'humanité va naître là.
Nous ferions mieux de redescendre,
déclara Sol en abritant Rachel du soleil.
Brown et Martin devraient être de retour à l'heure du dîner.
Mais ce ne fut pas le cas. Le soleil se coucha sans qu'il y eût aucun signe de leurs deux compagnons. Le consul marcha jusqu'à l'entrée de la vallée, grimpa sur un rocher qui dominait les dunes et la plaine rocheuse, mais il ne décela aucune présence. Il regrettait que Cassade ne lui eût pas laissé les jumelles. Avant même que les derniers feux du soleil aient tout à fait disparu, les éclairs dans le ciel confirmèrent que les combats se poursuivaient encore dans l'espace. Les trois hommes s'assirent sur les marches du Sphinx pour contempler le spectacle. Des explosions d'un blanc étincelant succédaient à des corolles rouges et à de soudaines traînées vertes ou orangées qui laissaient longtemps leur écho sur la rétine.
« Qui gagne à votre avis ?» demanda Sol.
Sans lever les yeux, le consul répondit.
« Quelle importance ! Mais ne serait-il pas préférable de trouver un autre endroit que le Sphinx pour dormir ce soir ? L'un des autres tombeaux, par exemple ?»«
Je ne peux pas quitter le Sphinx, » lui dit Sol. « Mais cherchez un endroit, si vous voulez. »
Durée toucha la joue du bébé. Rachel tirait avec énergie sur la sucette.
« Quel âge a-t-elle exactement, Sol ?»
demanda le prêtre.
« 2 jours, presque exactement. »
« Elle serait née environ 15 minutes après le coucher du soleil sous cette latitude, en heure locale d'Hyperion.
« Je vais jeter un dernier coup d'œil, » proposa le consul. « S'ils ne sont pas encore en vue, il faudra que nous allumions un feu pour les aider à retrouver leur chemin. »
Il avait descendu la moitié des marches lorsque Sol se leva pour pointer l'index, non pas en direction de l'entrée de la vallée, éclairée par le faible halo du couchant, mais du côté opposé, celui qui était presque totalement plongé dans l'ombre. Le consul s'immobilisa. Les deux autres le rejoignirent. Le diplomate sortit de sa poche le petit étourdisseur neural que lui avait donné Cassade plusieurs jours auparavant. Maintenant que Lamia et Cassade n'étaient plus avec eux, c'était la seule arme dont ils disposaient.
« Vous ne voyez pas ?»
chuchota Sol. La silhouette était en train d'avancer dans la pénombre qui régnait au-delà du faible halo de lumière du tombeau de Jade. Elle ne semblait avoir ni la taille ni la vitesse du Gritch. Sa progression était assez étrange, lente, chancelante et entrecoupée d'arrêts. Le père Duret regarda par-dessus son épaule, en direction de l'entrée de la vallée, puis se tourna de nouveau vers la silhouette.
« Serait-il possible que Martin Silenus soit revenu par un autre chemin ? » demanda-t-il. « Je ne vois pas comment, à moins d'avoir sauté du haut des falaises, »
murmura le consul.
S'il avait fait un détour par le nord-est, il aurait eu 8 kilomètres de plus à parcourir. Sans compter qu'il est bien moins grand que cela.
La silhouette fit une nouvelle halte, tituba un instant sur ses jambes, puis s'effondra. À plus de 100 mètres de distance, elle ressemblait maintenant à l'un des rochers épars dans la vallée.
« Venez !» dit le consul.
Ils se mirent en route sans courir. Le consul descendit l'escalier le premier, l'étourdisseur au poing, réglé sur une 20aine de mètres, bien qu'il sût très bien que l'effet à cette distance serait minime. Le père Duret le suivait de près, portant l'enfant tandis que Sol se baissait pour ramasser un caillou.
« David et Goliath ?»
demanda le prêtre en le voyant prendre dans sa main une pierre de bonne taille qu'il mit en place dans la fronde en fibroplaste qu'il avait bricolée cet après-midi à partir d'une attache de paquetage. Le visage bronzé de l'érudit devint pourpre autour de sa barbe.
« C'est à peu près cela, » dit-il. « Mais passez-moi Rachel, je vais la reprendre.
J'aime bien la porter, ça ne me dérange pas du tout. Et il vaut mieux que le consul et vous ayez les deux mains libres pour le cas où il faudrait se battre. »
Sol acquiesça. Il rattrapa le consul, laissant le prêtre et l'enfant marcher à quelques pas derrière eux. Arrivés à 15aine de mètres de la forme humaine effondrée, ils purent voir qu'il s'agissait d'un homme de très grande taille, portant une robe d'une étoffe grossière et qui gisait le visage dans le sable.
« Restez là !»
dit le consul. Il se mit à courir. Les autres le regardèrent retourner le corps, remettre l'étourdisseur dans sa poche et prendre la gourde qui pendait à sa ceinture. Sol s'avança à son tour, sentant maintenant la fatigue comme une sorte de vertige presque agréable. Duret le suivit plus lentement. Lorsque le prêtre arriva dans la lumière de la lampe du consul, il vit que l'homme au capuchon relevé avait des traits vaguement asiatiques. Son long visage était en même temps éclairé par le halo du tombeau de Jade.
« C'est un templier ?»
murmura Duret, stupéfait de trouver ici un adorateur du Muir.
« C'est la voix de l'arbre authentique, »
expliqua le consul.
notre premier pèlerin manquant. C'est Ethmastine.